Un appétit, une trahison, un tsunami, c'est la règle de trois de Georges Hugeux. Son appétit est vorace. À Bruxelles, pendant l'adolescence, son papa juriste perd sa situation. Le jeune Georges doit se responsabiliser. Cette expérience expliquerait son grand appétit. Garçon de course dans un supermarché, il poursuit parallèlement ses études et multiplie les activités. Il apprend le piano, le chant, devient président du cercle des étudiants. En 65, il fait une rencontre décisive, celle d'Alexandre Lamfalussy, professeur d'économie à l'Université catholique de Louvain et qui sera plus tard président de l'Institut monétaire européen.
We need a program of reform.
Georges Hugeux occupe des postes à responsabilité dans différentes banques, assure la vice-présidence de Wall Street entre 1996 et 2003, puis fonde sa propre banque d'affaires. Son livre « La trahison de la finance » naît d'une immense déception liée à la crise de 2008. Selon lui, les financiers ont trahi car ils ont cherché à se servir, oubliant leur rôle social et économique qui consiste à faciliter le financement des entreprises et les prêts des ménages.
Il faut que l'ensemble de la butte financière soit réglementé.
Il dénonce la cupidité et l'hubris de ces financiers qui, soit dit en passant, ont encore perçu des bonus hallucinants en 2009.
49 milliards de dollars. Plus de 30 milliards d'euros. Ils n'ont aucun problème moral.
Le tsunami nous menace et son impact pourrait être 5 fois plus grave que la crise de 2008. C'est ce qu'il avance aujourd'hui dans son dernier ouvrage, La descente aux enfers de la finance, ainsi que sur son blog hébergé par lemonde.fr. Le risque de catastrophe résulte de l'accroissement de la dette publique mondiale, estimée désormais à 63 000 milliards de dollars.
So we need to be very careful here to create a way of applying austerity that is not just like the budget of the United States favoring the rich and unfavoring the poor.
Georges Hugeux estime qu'il nous reste 3 ans maximum avant le tsunami et s'inquiète de ne pas sentir une réelle prise de conscience.
Pas rassurant comme pronostic Georges Hugeux. Alors vous dites que la prochaine crise financière, dans 3 ans maximum, elle sera pire que le krach de 2008. Pourquoi ?
D'abord parce que le montant n'est plus du tout le même. Et que ce n'est pas limité aux banques. Ce qui s'est passé pendant les 10 années que nous avons vécues, c'est qu'on a réglementé la crise précédente. Mais il y a eu une montée en puissance d'une autre crise, qui est la crise qui a été aidée par les banques centrales, qui font qu'on pouvait emprunter pratiquement pour zéro, et dans laquelle les États se sont mis dans une situation qui aujourd'hui menace l'avenir. Je vais vous donner un seul chiffre. La semaine dernière, le gouvernement américain a annoncé le résultat du premier trimestre 2019 du déficit budgétaire américain. Le déficit, plus 77%.
Donc ce sont les États qui aujourd'hui désormais s'endettent considérablement depuis 10 ans. On a sauvé le système bancaire, mais les États s'endettent.
Exact. Et ce n'est pas la dette n'est pas montée parce qu'elle a aidé les banques, parce que l'aide aux banques a déjà été remboursée depuis longtemps.
Pour que nos téléspectateurs comprennent, comment se passe concrètement une crise de la dette? C'est-à-dire, c'est un pays qui fait défaut, et après, qu'est-ce qui se passe concrètement pour les pays, pour les ménages? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les mécanismes?
C'est comme dans un ménage. À partir du moment où vous n'avez plus assez, vous devez essayer de trouver plus pour pouvoir continuer. Fatalement, on va vous demander plus pour l'argent que vous allez emprunter. Et c'est un processus dans une spirale dans laquelle les taux d'intérêt montent, votre budget augmente parce que les taux d'intérêt, c'est dans votre budget, vous devez réemprunter et à un moment donné, vous ne pouvez plus faire.
On peut craindre que des États fassent faillite.
Les États ne font jamais faillite, les États font défaut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit restructurer leurs dettes. Les États ne sont jamais totalement impécunieux. Mais parfois, il faut leur prêter l'argent avec lequel ils remboursent. C'est ce qu'on a connu pour la Grèce.
Et du coup, quand on restructure leurs dettes, qu'est-ce qui se passe après pour les ménages? Parce que ça ne se limite pas juste des sphères haut placées. Ça a des effets dans l'économie réelle.
Alors je reviens sur l'exemple grec, on l'a connu. Qu'est-ce que l'on a dû faire? Les professeurs, les fonctionnaires, les pensionnés ont vu tous leurs revenus coupés.
Les services publics essentiellement ont été...
Oui, parce que c'était un déficit public. Ah ouais. Ici, nous avons un risque supplémentaire. C'est que si effectivement vous avez la dette publique qui devient tellement menacée que les taux d'intérêt doivent monter, ça va être le cas pour les entreprises, et ça va être le cas pour le marché immobilier, ça va être le cas pour toute une série de plans d'économie.
Votre livre aussi, Georges Hugeux, c'est une critique de la mondialisation. Vous dites qu'on est allé trop loin dans la mondialisation. Dans quel sens on est allé trop loin et comment revenir en arrière?
Le modèle de la mondialisation a été en grande partie organisé par les États-Unis. Et c'est un modèle dans lequel ils ont estimé qu'ils avaient le droit de vendre leurs produits n'importe où et que personne ne pouvait les arrêter. C'est ça la mondialisation. C'est je vais partout. Ne venez pas trop chez moi, mais c'est quand même une économie ouverte. Je crois qu'il va falloir changer le système. Je crois qu'il va falloir avoir des éléments de mondialisation en Europe, en Asie, aux États-Unis, qui ont une identité régionale.
C'est pas déjà trop tard ?
Non. Je crois que... il y a même une prise de conscience qui est en train de se faire.
En Europe, notamment.
Et je vais vous donner l'exemple que vous connaissez bien. Les GAMA et la taxation des GAMA. C'est exactement ça. C'est les régions qui disent, vous pouvez faire de l'international au niveau mondial, mais pas à n'importe quel
niveau.
La taxation des GAFA. Alors, depuis 10 ans, ce n'est pas la crise pour tout le monde. En même temps, on a vu les revenus des ultra-riches être multipliés par 6, 8, 10. Vous expliquez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut taxer les ultra-riches pour restaurer un peu de justice fiscale.
Alors, vous avez connu, bien entendu, tout le débat sur l'ISF. Je n'y reviens pas. L'ISF était une erreur parce que c'est une taxation sur le stock. Il faut taxer les flux. Donc il n'y a qu'une réponse par rapport aux super riches, c'est d'avoir un niveau au-delà des 45%, mettons 55%, au-delà d'un million d'euros ou quelque chose comme ça, qui fasse que on retrouve. Ce n'est pas, ça ne va pas rapporter grand-chose. Ça ne va pas résoudre le problème de la dette publique, mais ça va recréer des conditions d'équité. Et ça, c'est devenu essentiel.
Justement, il y a quand même un symbole, vous l'avez évoqué, vous venez de le citer, Georges Jeux, c'est l'ISF. Précisément, hier, Emmanuel Macron a reçu une belle brochette d'intellectuels à l'Élysée et il a évoqué le sujet.
Oui, c'est un échange au cours duquel, effectivement, il est revenu sur cette question de l'ISF, de l'impôt sur la fortune. Il avait, en janvier dernier, dans sa fameuse lettre aux Français, fermement refusé de revenir sur sa suppression. Hier, il a confirmé sa position avec cette phrase un peu alambiquée. On est rentré dans ce débat. Le débat national, donc, sur une taxe qui payait trop, certains. Je ne crois pas qu'on s'en sorte en faisant payer d'autres. Vous qui voulez taxer les ultra-riches, comme on vient de le dire, est-ce que rétablir l'ISF, et c'est réclamé par les Gilets jaunes et pas que, ça suffirait à donner, à rétablir la justice fiscale, ou en tout cas à donner le ressenti, est-ce qu'il y aura un effet psychologique sur les gens?
Je crois qu'il faut, je le dis, augmenter certaines tranches d'impôts pour expliquer qu'on taxe les riches. Mais il ne faut pas le faire par l'ISF. Ce n'est pas la solution.
Parce que taxer sur l'ISF, on taxe les actifs, on ne taxe pas les ultra-riches.
C'est ce on ne taxe pas les revenus.
Vous avez évoqué la taxation des GAFA et le poids considérable qu'ils ont acquis aujourd'hui sur l'économie. Est-ce que les GAFA, il faudrait aussi les démanteler? C'est un débat qui apparaît peu à peu pour redonner justement un peu plus de justice et d'équité dans le fonctionnement de l'économie.
Alors on va avoir ce problème. On l'a dans les banques, on l'a partout. Mais je voudrais... parler d'un sujet plus délicat, c'est la taxation des entreprises. Aujourd'hui, le budget de l'État, en France, en Europe, aux États-Unis, 10% ou parfois moins provient des entreprises. Les entreprises, en plus, reçoivent des subsides. La contribution des entreprises à la charge commune est inexistante. Et en tout cas, pas en proportion de ce qu'elles représentent. Ça va me rendre extraordinairement peu populaire. Même auprès de toutes les entreprises. Mais le fond du problème, c'est que là, par contre, on devrait pouvoir arriver non pas à 7 ou 8% ou 9%, on devrait arriver à 20-25%. Et je crois qu'en France, vous avez en plus un handicap énorme qui sont les charges sociales. Et je crois qu'il y a un rééquilibrage à faire entre la taxation, qui elle est sur l'activité, les charges sociales qui, en fait, plombent l'emploi. Et donc réamorcer la pompe de l'emploi en diminuant les charges sociales, mais faire payer cette différence-là par l'impôt.
Et ça, ce sera une façon d'échapper à la catastrophe financière que vous prophétisez pendant quelques
années.
C'est
un des moyens.
C'est un des moyens d'échapper à cette perspective. Merci Georges Jugeux d'être venu.